Fête du Saint-Sacrement 2025. J'ai reçu ce matin un message qui me rappelle une vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'unité. Moi, j'ai une façon de penser et on m'envoie un message et dans le message, la personne qui m'envoie le message pense exactement à l'envers de ce que je pense. Et ça m'a surpris parce que je n'avais jamais imaginé qu'on puisse penser de cette manière-là. Donc, je vois que c'est chacun pense ce qu'il veut, chacun a son idée, et puis il n'y a pas d'unité. Alors après, pour me dire, ouais, si, chez les tradis, il y a de l'unité. Non, il n'y a pas d'unité, parce que les tradis, même les cédévacantistes, observent eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à faire l'unité. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails de la vie sociale, même d'une seule paroisse cédévacantiste, il n'y a pas d'unité non plus. Et pourtant, le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, c'est censé faire l'unité. Saint Paul dit, nous sommes un seul corps parce que nous avons tous part au même pain. Eh bien, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est-à-dire, le corps du Christ dans l'Eucharistie n'arrive plus à faire l'unité. Ça ne marche plus. Alors après, il y en a qui me diraient, ouais, c'est parce qu'il n'y a pas assez de vraies messes. Mais c'est faux, parce que là où préarrêt-il, il y a des vraies messes, j'en sais rien, chez les sévacantistes, ou la Fraternité Saint-Pilice, ou dans d'autres trucs un peu plus ou moins tradis, ça marche pas non plus. Et puis si ça marchait, l'Église aurait pas explosé, comme on le voit aujourd'hui. Donc la Sainte Messe, ça fait plus l'unité. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que dans la vie, il n'y a pas que la messe, il y a aussi la fesse. Alors, je répète parce que peut-être que vous n'avez pas bien compris ce que je voulais dire. C'est une question de prononciation. Dans la vie, il n'y a pas que la messe, il y a aussi la fesse. F-E-2-S-E. Oui, d'accord. Dans la vie, il n'y a pas que la messe, il y a aussi la fesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que, comme je prêche depuis des années, la vérité, la religion parfaite, c'est la religion du libre-esprit. Et c'est elle qui va ressusciter l'Église catholique. Et c'est parce que l'Église catholique, les chefs de l'Église catholique avaient rejeté le libre-esprit que l'Église catholique a péri. Alors évidemment, si on dit ça à certaines personnes, ils se bouchent les oreilles en criant au blasphème, à l'hérésie et tout le bazar. Mais moi, je sais que c'est la vérité. Et je sais que c'est la vérité. Et je ne sais pas quand est-ce que la fesse sera le moyen de l'unité. Parce que moi, j'avais pensé que je pourrais parler à des gens pour l'exposer en détail, cette affaire-là, pour qu'ils comprennent. Parce que si je vous balance comme ça, d'un coup, d'un seul, il n'y a pas que la messe, il y a aussi la fesse. Et c'est la fesse qui fait l'unité, là. Vous allez... Oui, mais de toute façon, vous allez peut-être être surpris. Mais de toute façon, j'arrive pas à trouver des gens qui sont capables de suivre toute l'histoire pour que je présente les arguments en faveur pour expliquer pourquoi la fesse va faire l'unité. Je peux essayer de tenter un petit résumé. Alors, c'est le corps du Christ qui fait l'unité. Nous mangeons le corps du Christ pour faire l'unité. Ça ne marche plus. Pourquoi ? Ça ne marche plus parce que le corps du Christ, ce n'est pas seulement un sacrement. C'est aussi, nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre du corps du Christ. Notre corps... Je dis bien notre corps, pour ceux qui veulent faire disparaître le corps. Notre corps, c'est le corps du Christ. Et de même que nous mangeons le corps du Christ pour être dans l'unité, et bien pour être vraiment dans l'unité pleine et entière, il faut aussi que nous nous mangions les uns les autres. Ah bon ? Oui, mais alors c'est si on accusait peut-être autrefois les chrétiens d'être des cannibales, il paraît qu'ils mangent Jésus. C'est quoi ce truc-là? Non, c'est un morceau de pain, mais c'est vraiment Jésus, c'est vraiment la chair de Jésus. Et nous, si nous nous mangeons les uns les autres, c'est comment nous allons nous manger les uns les autres? Eh bien, nous allons nous manger les uns les autres par le moyen de la fesse. C'est-à-dire que la relation amoureuse, physique, c'est un moyen, c'est une nourriture. Voilà. Tout simplement. Et c'est cette nourriture-là qui est capable aujourd'hui de faire l'unité. Alors moi, je suis quelqu'un de, à la fois de plaisantin, mais aussi de très sérieux. C'est-à-dire que si on va vraiment chercher la raison de toutes ces choses-là, et qu'on va dans l'histoire, on peut prouver, mais là, j'ai affaire à des gens qui ne sont pas capables de suivre un raisonnement, tout ça, donc je ne peux pas aller trop... Je ne peux pas vous exposer les choses en détail. Si vous étiez capable d'exposer ça, d'écouter un discours suivi, bah, vous liriez mes livres, vous regarderiez au moins les collections d'images que j'ai faites, vous écouteriez la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite sur Jérôme Bosch, qui est vraiment géniale. Mais bon, y a rien à faire, ça ne rentre pas. Alors, je vous le dis comme ça. Ce qui va faire l'unité, c'est la fesse. À savoir que dans le grand désordre dans lequel on est plongé, là, aujourd'hui, ben, c'est ceux qui sait qui va survivre au cataclysme qui vient, là. En fait, Dieu va faire le grand ménage, parce que c'est pas possible que, voilà, que ça dure comme ça encore, que les méchants continuent à tout casser, parce que si on les laisse, il ne restera plus rien. Avec le transhumanisme et tout ça, ils ont vraiment décidé de faire disparaître la nature humaine. Bon, si on les laisse faire, il ne restera plus rien. Donc il y a bien un moment où Dieu va dire stop, et ce moment est très proche. Hein. Mais dans ce grand ménage, qui va ressembler à une sorte de déluge, il va falloir bien survivre de manière miraculeuse. Hein. Ce n'est pas en entreposant des boîtes de conserve et des filtres à eau chez soi qu'on va réussir à résister au cataclysme qui vient. Donc il y aura des miracles. Eh bien, Dieu fera des miracles pour ceux qui accepteront de connaître la vérité, soit celle que je leur transmets moi, soit celle qu'ils découvriront par eux-mêmes, ou celle qui existe quelque part ailleurs dans le monde, je ne sais pas. Mais cette vérité, c'est la vérité de la fesse. La messe, ça ne suffit pas, il faut aussi la fesse. Voilà. Parce que Dieu a fait la fesse, ou le cul si vous préférez, mais ça rime pas avec messe, alors c'est moins rigolo. Dieu a fait la fesse pour sa gloire. Il a fait la relation amoureuse pour sa gloire. Et ceux, les abrutis qui veulent croire que la concupiscence c'est quelque chose de mauvais, ben, ceux-là, ils tiendront pas le choc, c'est tout, parce que c'est faux, parce qu'ils insultent Dieu. Dieu a fait la concupiscence pour sa gloire. Dieu a fait la jouissance pour sa gloire, et Dieu a fait le désir de la jouissance pour sa gloire, c'est tout. Voilà. Pourquoi est-ce que nous devrions glorifier Dieu en se flagellant, en se souffrant, en se privant? Non, nous devons louer Dieu en jouissant. Seulement, comme on va chanter tout à l'heure, dans le Saint-Sacrement, et là, si vous allez dans une image de Bertolt Fulmeyer, vous verrez ça, qui est cité, dans le Saint-Sacrement, « Sumunt boni, sumunt mali, sortet amen in equali, vite velt in territus, mors est malis, vita bonis, vide pari sum sionis, quam sit dispar exitus. » C'est-à-dire, il y en a qui prennent l'Eucharistie et c'est pour leur mort. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mauvais. Et il y en a qui prennent l'Eucharistie, c'est pour leur vie, parce qu'ils sont bons. On le dit du Saint-Sacrement. Eh bien, on le dit de la messe. Eh bien, c'est pareil pour la fesse. Oui ? Enfin, je veux dire, c'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça. Hein, bon. Comprenez ? C'est ça. C'est... Ah, vous voyez, regardez les rosemons qu'on pourrait faire. Ah, ben, il y a des gens qui prennent le Saint-Sacrement et le Saint-Sacrement les condamne et les envoie à la mort. Ah, ben alors, le Saint-Sacrement, c'est une chose abominable, horrible, pécheresse, satanique, même. C'est un rosemont débile. La vérité, c'est ça. Voilà. C'est ça, le Saint-Sacrement, ça peut donner la mort, ça peut donner la vie, c'est tout. Ben, la fesse, c'est pareil. Et comment ça se fait qu'à la fesse, ça donne la vie à certains et ça donne la mort à d'autres? Ben, tout simplement parce qu'il y en a qui sont bons et d'autres sont mauvais. Voilà. Voilà, on ne rentre pas dans les détails, mais si on explique, c'est quoi être bon, c'est quoi être mauvais. Ben, l'homme qui est bon, c'est celui qui vit pour Dieu. Et l'homme qui est mauvais, c'est celui qui vit pour lui-même. Hein, Jésus dit...
Qui n'aime pas son prochain,
Oui. Jésus dit ça quand il explique que celui qui s'accumule des richesses pour lui, hein, et puis il meurt, et puis Jésus dit, ben, et puis voilà, et puis il meurt, et puis ça lui sert à rien, tout ce qu'il a accumulé pendant sa vie, et ben voilà quelqu'un qui a vécu pour lui. C'est ça le mal. Le mal, c'est vivre pour soi. Et le bien, c'est vivre pour Dieu. Alors, si je prends la fesse pour moi, je suis mauvais et je vais en enfer. Si je prends la fesse pour Dieu, je vis pour Dieu et je vis au paradis. L'important, c'est de vivre pour lui, de jouir pour lui. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus dit, Jésus jouit de notre béatitude. Jésus, voilà. Mais la béatitude, c'est d'être tourné vers lui. Alors concrètement, c'est quoi être tourné vers lui? Ben, c'est assez facile à voir. C'est vivre pour lui, quoi. C'est vivre pour lui. C'est vivre pour Dieu.
Chanter ses louanges.
Se passer du temps à s'occuper de lui. Voilà. Passer du temps à s'occuper de nos frères. Et puis quand on est dans la fesse. Ben, faire attention avec ceux avec qui on mange de la fesse. N'est-ce pas? Quand on croque une bonne fesse. Faut faire attention à la fesse que l'on croque. Enfin, que l'on croque, on mordit, on va dire. Évidemment. La belle fesse. La bonne fesse. Miam, miam. Donc, comme disent les nudistes, nous ne devons pas avoir honte de ce que Dieu n'a pas eu honte de créer. Voilà. Parce que, bon, après, vous allez me dire, oh, mais les théologiens qui ont dit que la concupiscence était une conséquence du péché originel. Ben oui, ils l'ont dit. Ils l'ont écrit même. Ben, c'est des conneries, c'est tout. C'est complètement débile. C'est complètement débile. C'est complètement débile. C'est parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec le cul, qui sont coincés du cul, qui sont. C'est vraiment le cas de Saint-Augustin, apparemment. Hein. Bon, on peut faire des caricatures, mais c'est la caricature livrée. Les gens qui sont tourmentés, parce qu'ils sont trop sensibles, je ne sais pas trop quoi, ils ont peur. Alors, pour eux, ils ont peur de cette chose, alors c'est forcément un mal, c'est un péché. Puis ils ont peur de ce truc-là, ils disent, oh là là, si jamais il n'y avait pas le péché originel, on n'aurait pas senti. Cette émotion qui vient dans nos membres et qu'on a du mal à maîtriser, cette émotion qui est angoissante, on ne l'aurait pas eu. Ben, d'ailleurs, un raisonnement facile. Pourquoi cette émotion, la concupiscence, le désir qui est excité par la vue de quelque chose d'appétissant, pourquoi c'est angoissant? Ben, on a la réponse. Ça peut très bien mener à la mort. Et oui. Si on fait ça mal, si on s'approche de cette chose mal, on va à la mort. Mais devant la fesse, on pourrait être angoissé autant que devant l'Eucharistie. Sauf que devant l'Eucharistie, ça n'excite pas en nous des mouvements intérieurs. Alors on ne s'aperçoit pas à quel point c'est dangereux cette affaire-là. Mais c'est dangereux. Regardez, bah, je ne sais pas. Alors, on ne sait pas trop aujourd'hui la masse des gens qui vont dans les messes de la secte vaticane, si des vraies ou des fausses messes. Mais le nombre de communions sacrilèges. Si jamais c'est des vraies messes, alors c'est un torrent de sacrilèges. Il y aurait de quoi être terrifié. Bon, ils n'ont pas peur. Ils ont peur de rien. Bon. Donc la peur qu'il y a devant le cul, c'est. C'est logique dans un sens qu'elle soit plus grande que ce qu'on peut avoir devant l'Eucharistie, parce que le cul, c'est la fin de toute chose. Vous voyez? Dans l'éternité. on n'ira pas à la messe et on ne mangera pas une hostie. Par contre, on passera notre temps à faire des cochonneries. C'est-à-dire que le cul, c'est notre destinée finale. C'est ça, c'est là qu'on peut trouver, c'est ça notre bonheur éternel. Et puis si jamais on perd cette chose-là, ben on est dans le malheur éternel. On est face à notre destinée et on est face à cette vérité que ben, si on fait des mauvais choix, on va tomber dans le malheur éternel. Donc il y a quelque chose d'angoissant dans cette chose-là. Enfin, je dis angoissant. Je ne vais pas vous enfoncer dans l'angoisse. Je parle pour les gens. Mon but, ce n'est pas d'enfoncer les gens dans l'angoisse, sinon c'est de les en sortir. Moi, je suis pas... Comment dire, non, je ne vais pas dire moi, mais ce que je veux dire, c'est que... faut être raisonnable, quoi, voilà. Faut être raisonnable. Donc, ce qui va faire l'unité, c'est la fesse. C'est plus la messe. Enfin, c'est la messe, on va continuer la messe. La messe est admirable, mais ça ne suffit pas. C'est la messe et la fesse. La fesse fait l'unité. C'est-à-dire que nous allons apprendre à apprivoiser notre corps et à croire que Dieu veut notre jouissance, que Dieu veut notre joie, notre plaisir, notre jouissance. Essayer d'être un petit peu, commencer à être un petit peu adulte, on va dire, quoi, parce qu'il y en a un peu marre de toutes ces conneries. Quand on lit dans les psaumes que Dieu abreuve ses élus au torrent de ses délices, bon, un torrent de délices, ok,
délices.
Un torrent de délices, mais alors attention, hein, c'est que des délices chastes, oui, dans un sens, oui, mais c'est que des délices qui sont spirituels, c'est juste on va voir Dieu de nos yeux, de chair, comme dit Job. Et puis c'est tout, on regarde, mais on ne touche pas. Hein. C'est comme dans les musées. Hein. Voilà. C'est ridicule. Enfin, c'est grotesque. À un moment, il faut arrêter les bêtises. Torrent de délices. Torrent de délices. Bien sûr qu'il y aura des joies spirituelles. Ben, Dieu nous a fait une âme et un corps. Et il a fait le corps, pourquoi ? Mais parce pour que nous en jouissions aussi. Hein ? Ouais, vous croyez ? Il y a des gens qui imaginent qu'au paradis... on va être au paradis, on sera habillé d'une robe blanche, peut-être, pour couvrir notre nudité honteuse. Ah bon, pourquoi elle serait honteuse? Si on est sans péché, il n'y a pas de honte. Qu'est-ce qu'on peut bien faire d'une robe au paradis? Lisez Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus. J'ai pas le bouquin là, ici. C'est... Voilà, justement, il y a une religieuse qui était troublée au sujet de la rose effeuillée. Alors, il faut comprendre, Thérèse, c'est facile à comprendre pour ceux qui ne sont pas coincés du cul. Elle dit, de ma rose effeuillée, tu comprends le langage. Oui, parce qu'elle a remarqué, Sainte-Thérèse avait remarqué que les gens étaient assez bouchés et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre Thérèse. Mais elle disait, oh, et ça devait la saouler profondément. Dire, oh, qu'est-ce qu'ils me font ? Tout cela, ils ne veulent rien comprendre. Mais au moins, Jésus les comprend. Et alors, cette religieuse, c'était même plus qu'une religieuse, c'était une mère de communauté, là, une supérieure d'un Carmel, qui demande à Thérèse, oui, c'est bien tout ça, la rose effeuillée, c'est pas mal, mais il faudrait quand même, parce qu'elle devait avoir la trouille, hein, de voir la conséquence de l'effeuillage, donc elle voulait, hop, elle voulait fuir cette peur qu'elle avait, elle disait, ça serait bien que vous rajoutiez un couplet où vous dites que Jésus ramasse toutes les pétales de rose, en fait une robe pour vous habiller pendant toute l'éternité.
Une robe, oui.
Alors Thérèse répond que la bonne mère fasse son couplet comme elle l'entend, moi je me sens pas du tout de le faire.
D'accord.
Je cite de mémoire. Hein. Moi, je veux être effeuillé pour faire plaisir, je veux être effeuillé à tout jamais pour faire plaisir à un bon Dieu, un point c'est tout.
Un point c'est tout. Oui.
Et je crois bien que le un point c'est tout, c'est dedans. Hein.
Oui, c'est dedans.
Voilà, ça c'est Thérèse. Mais c'est un peu pour répondre au message j'ai eu ce matin où j'ai quelqu'un qui avait une sorte de défiance.
Oui, je l'ai terminé.
Ah, tu l'as dans celui-là aussi, tu l'as vu celui-là, ce passage-là? Non, tu dois confondre. Je crois pas que dans la simple édition de l'Histoire d'une âme, ça y est. Tu dois te souvenir de ce que je t'ai lu dans les éditions complètes, hein, dans les œuvres complètes.
Oui, mais
tu crois l'avoir lu? Bon, peut-être on
verra. Il y a des reparties aussi avec le supérieur et tout ça.
Bon.
En fait, on a route de Gonzague et puis.
Ouais. Donc voilà, j'ai un message de quelqu'un qui avait une certaine défiance en faire Thérèse l'Enfant Jésus. Alors là, je suis pas tombé des nues parce que j'ai, mais quand même, je dis, on vit quand même dans l'incompréhension, c'est fou quoi. Mm-hmm. Donc Jésus, j'ai demandé à Jésus de faire l'unité, qu'on puisse me dire que Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, il vaut peut-être mieux éviter. Enfin, j'avais pas imaginé qu'on puisse penser une chose pareille. Alors, non, c'est de l'ignorance, hein. Mais ça montre à quel point les esprits sont dispersés, sont égarés, sont séparés, qu'on est chacun dans son petite pensée et qu'on n'arrive pas à faire l'unité. Et qu'il vraiment, il faut faire l'unité. Et la vérité, c'est que l'unité viendra. Alors, excusez-moi, je vais être un peu cru et. Mais il faut bien en arriver un jour à dire la vérité. Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres », certes, mais dans sa pensée, il voulait aussi dire « Baisez-vous les uns les autres ». C'est-à-dire que la fesse, ça fait l'unité. Alors, et je vais peut-être essayer, c'est difficile de terminer quand on parle de ces choses-là, mais je vais quand même essayer finir avec sur une note tragique.
Ouais.
Hélas, tragique. Parce que moi, j'ai passé quelques temps enfermé chez moi à contempler toutes ces choses-là en rigolant bien, tout seul dans mon coin, et en oubliant tous les malheurs du monde. Puis bon, là, je suis dans une autre période de ma vie. Bref, où il se trouve que je regarde un peu les malheurs du monde. Et je me suis dit, ces derniers jours-là, c'est terrible ce qui se passe. Hein. C'est vraiment atroce ce qui se passe. Peut-être que dans l'atrocité de ce qui se passe aujourd'hui, il y a quelque chose qui participe au plan divin. Et là encore, ça va peut-être choquer encore plus que ce que j'ai dit jusqu'à présent, parce que tellement, c'est très choquant. C'est-à-dire que la souffrance qui s'abat sur le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être un moyen de briser la résistance du cœur des hommes. Voilà. Ils sont installés dans leur croyance, ils sont installés dans la certitude. Et les malheurs immenses qui s'abattent sur l'humanité aujourd'hui, c'est peut-être, ça participe, c'est peut-être un moyen que Dieu utilise pour détruire, en fait, la résistance du cœur de l'homme. Et que traumatiser, c'est parce qu'en fait, on est en train de fabriquer des traumatisés et encore des traumatisés. Ces traumatismes qui détruisent le tréfonds de l'être. Alors évidemment, les satanistes utilisent le traumatisme pour fabriquer des gens qui finalement vont être faciles à manipuler. Mais peut-être que dans le plan de Dieu, ce traumatisme fabrique des gens qui sont faciles à manipuler par le Saint-Esprit lui-même. Parce que c'est Étienne qui dit ça aux pharisiens. Tête dure ou nuque dure, vous résistez depuis des siècles. Hein, je cite de mémoire là encore. Vous résistez depuis des générations à l'esprit. Et là, depuis 2000 ans de christianisme, on voit des chrétiens qui résistent à l'esprit. Et peut-être que les traumatismes qui s'abattent sur l'humanité aujourd'hui, c'est un moyen que Dieu utilise pour briser la dureté des cœurs de pierre, briser les cœurs de pierre qui sont enracinés dans l'incertitude, qui veulent croire que... Alors, par quel mécanisme ça peut arriver ? Mais quelqu'un qui est assez bien dans sa peau, finalement... Il peut se contenter de ce qu'il a. Et c'est ça le problème. Et alors, quand le Saint-Esprit vient lui proposer la baise éternelle, baisez-vous les uns les autres et tout ça, il dit, oh là là, que c'est ce bazar, moi, j'ai pas besoin de tout ça, moi, j'ai mon équilibre, dans mon petit plaisir, dans ma petite joie, j'ai pas besoin de la joie de ce grand bazar, de ce grand bazar de, qu'on me propose. Tandis que celui qui est brisé jusqu'au fond de lui, bon, je parle d'expérience, hein. Je parle de, quand je dis ces choses-là, je parle un peu de moi. Celui qui est brisé jusqu'au fond de lui, lui, tout ce qui lui reste à l'intérieur de lui, s'il n'est pas sombré dans le désespoir, c'est un cri vers le bonheur. Un cri, un hurlement de douleur. Il y a en lui, et je parle de moi, il y a en lui un hurlement de douleur qui appelle vers la jouissance. Pour parler un peu de détails, entre autres, je ne raconte pas tout, d'ailleurs je ne sais pas tout, parce qu'il y a énormément de choses qui dans ma vie ont été cachées. Je subis la torture électronique depuis que je suis gamin. Donc là, il y a un moment, j'en ai un peu plus, quoi. Ça provoque un cri, un hurlement de douleur. Mon Dieu, sauve-moi de tout ça. Ma vie, ce n'est qu'une souffrance permanente. Je crie après la jouissance. Et alors là, quand on crie après la jouissance, ben, on discute moins en se disant « Oh oui, je veux une jouissance, mais une modérée. Hein. Il ne faudrait pas que ce soit trop quand même. Hein. Il faudrait que ça reste dans les limites de la décence. Dans les limites de la décence. C'est quoi les limites de la décence ? Ben, il ne faut pas que ça soit trop. Il ne faut pas que ça soit trop. Mais réfléchissez un peu. Si vous demandez à Dieu « Oui, je veux bien... de l'éternité, mais pas trop. Je veux bien de la jouissance divine, mais pas trop. » Et Dieu, qu'est-ce qu'il répond ? Bah, tu te fous de ma gueule.
D'accord.
Parce que la jouissance divine, c'est gigantesque, c'est immense, ça dépasse. Il n'y a pas de limite. Bon, il n'y a pas de limite. Il va falloir que ça vous rende dans le crâne, il n'y a pas de limite. Hein ? On va dire, ouais, vous êtes en train, là je suis en train de lire le livre de Mgr Gobbe sur la société domestique, voilà, bon, la sainteté du mariage, ouais, la sainteté du mariage, qu'est-ce que t'en fais ? Ben j'en fais ce que Jésus en fait. Qu'est-ce qu'il répond Jésus ? On lui pose la question. Bon, il y a une femme qui dans sa vie a eu plusieurs maris, dans l'éternité ce sera qui son mari ? Jésus répond, vous avez rien compris. Il répond, vous avez rien compris. D'accord. Je sais plus exactement quels sont les termes, mais c'est ça qu'il leur dit. Mmh. Vous avez rien compris. Vous êtes complètement débile. Vous êtes complètement con. Dans l'éternité, on ne prend ni mari ni femme. Alors tout de suite, les gens, les coincés du cul montent à l'assaut. Ah ben tu vois, on prend ni mari ni femme, donc ça veut dire qu'au paradis, on baisse pas. Ah bon ? Pourquoi ? On est obligé d'être marié pour baiser ? C'est mécanique, c'est une nécessité mécanique ? Non ? Mais nous sommes comme les anges de Dieu, dit Jésus. Ben, moi, je réponds, ben, ça va être un sacré bordel. Évidemment. Pourquoi est-ce qu'on ne prend ni femme ni mari au paradis ? Ben, parce que tout le monde baisse tout le monde, évidemment, c'est ça la vérité. Bon. Et Jésus s'est donné lui-même... Alors, je vais finir là-dessus, bon, puisqu'on est lancé, hein, on y va carrément. Jésus se donne lui-même en nourriture à ses disciples. Mais vous savez que dans l'économie divine, comme on dit chez les théologiens qui sont un peu sérieux, pas comme moi, dans l'économie divine, il y a Jésus s'est associé quelqu'un dans son œuvre de rédemption et que cette personne, c'est la très sainte Vierge Marie. Bon. Eh bien, lisez ce que Jésus fait de la très sainte Vierge Marie dans le Cantique des Cantiques. Alors, je cite encore de mémoire, parce que tous ces trucs-là, c'est des trucs que je connais un peu quand même, parce que je reviens toujours là-dessus. Alors, l'époux dit « Je suis venu dans ma jardin, j'ai mon... » Ah oui, c'est l'épouse qui dit que mon époux vient dans... Mon bien-aimé vient dans son jardin. Et l'époux répond « Je suis venu dans mon jardin, j'ai bien bu, j'ai bien mangé. » Ok ? Quand je vous dis « Vous mangez, se manger les uns les autres, c'est bien ça, on dit ça aussi. » « J'ai bien mangé, j'ai bien bu, et puis après... Après, il appelle ses amis, il les dit « Venez manger, enivrez-vous, mes bien chers. » C'est-à-dire que l'époux, après avoir bien mangé, il appelle ses amis à partager son repas. Son repas, c'est qui ? Et vous, c'est quoi ? C'est la Sainte Vierge. C'est-à-dire que Jésus baise la Sainte Vierge, et quand il a bien baisé, il la donne à ses frères, à ses amis, pour que ses amis baisent sa mère. Ça, c'est le Cantique des Cantiques. Ça, c'est la Sainte Vierge. Donc la Sainte Vierge aussi est eucharistique. Parce que Jésus ne se donne pas seulement lui-même, il donne sa mère à manger, c'est-à-dire à baiser. Ça, c'est la vérité.
D'accord.
Et alors, ben, écoutez, voilà. Donc, moi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce que je vous dis là, je le sais depuis 15 ans. Bon. 2011. 14 ans. Ce que je vous dis là, ça fait 14 ans, je le sais. Et depuis 14 ans, je m'aperçois qu'il n'y a rien à faire. Je n'ai affaire qu'à des bornés, des coincés du cul, des fermés des oreilles, enfin des gens qui ne veulent rien comprendre. Et alors, non seulement ils ne veulent pas comprendre ce que je viens de leur vous exposer là, mais après, ils s'embourbent dans des... Quand on lit, par exemple, le livre de Maxence Eckhart sur le problème de l'autorité, ils inventent des systèmes complètement débiles pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est n'importe quoi. Un pape qui peut être pape, mais qui est hérétique, ou alors... Ils n'inventent que des conneries. Alors, c'est tout simple de dire que la Sainte Vierge est une pute. Et que le meilleur moyen de rendre un culte à la Sainte Vierge, c'est de l'honorer en tant que pute. Et d'ailleurs... Quand vous lisez, parce que moi, des arguments pour vous prouver ce que je viens de dire, mais il faudrait que j'ai des gens qui m'écoutent, parce que des arguments, j'en ai des tonnes. Un entre mille, ou entre des tonnes, dans la généalogie de Jésus, au tout début de l'évangile de Matthieu, le premier évangile, au tout début, il y a la généalogie, et la première femme qui apparaît dans les évangiles, c'est une pute. C'est Tamar. C'est pas réellement exactement une pute parce que c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour une pute et qui a eu une relation, qui a été approché par un homme qui l'a prise pour une pute. Voilà. C'était qui? C'était Judas, je crois. C'était Judas, oui, c'est Judas. Un des fils de Jacob qui s'appelle Judas, le descendant, le rejeton de Judas, c'est Jésus. Jésus descend de la tribu de Judas. Donc, voilà, il a baisé sa belle-fille qui s'était fait se passer pour une pute afin d'avoir un enfant de son père parce qu'il n'avait pas voulu la remarier après la mort de son époux. Donc, la première femme qui est dans l'évangile, c'est une pute. Et la première femme qui est dans l'ascendance de Jésus-Christ, c'est une pute. Évidemment, c'est fait pour expliquer. C'est une figure de la Sainte Vierge qu'elle-même est une pute. Si vous voulez aller à Jéricho, tout le monde a été massacré, sauf la famille de la pute qui s'appelait, je ne sais plus si c'est Rahab ou une autre. À Jéricho, il n'y a que une pute et sa famille qui ont été sauvées. Encore une figure de la Sainte Vierge. La pute, c'est Marie, et la famille, ben, ce sont les dévots de cette pute. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans les cataclysmes. Alors, moi, j'ai essayé d'exposer toutes ces choses-là de manière un peu calme et rationnelle et tout ça. Et ça rentre pas, il n'y a personne qui veut m'écouter. Alors, dans le cataclysme qui vient, ça va un peu secouer les gens. Bon, il y a ceux qui sont insecouables, hein, il y a ceux qui sont inébranlables, si j'ose dire. Les inébranlables, on les ébranlera pas. Mais dans le gros cataclysme qui vient, qui est cataclysmique, je vous dis, puis tous ces gens qui sont traumatisés, quand on va leur proposer la véritable parole de vérité, ils vont accueillir la vérité. Voilà. Donc là, c'est l'œuvre divine. Moi, je suis juste le prophète. Je cherche des oreilles qui sont prêtes à entendre la vérité. Mais c'est pas à moi de faire de préparer les oreilles, parce que ça, j'ai vu que moi j'avais affaire qu'à des oreilles fermées, qu'à des cœurs fermés, qu'à des culs fermés aussi. Donc le cataclysme qui vient, ça va contribuer à rendre les gens disponibles à entendre la vérité. Donc maintenant, nous allons célébrer la messe du Saint-Sacrement en priant à Dieu. Je sais pas exactement quoi prier, parce que on va célébrer la vraie messe, tout simplement. Je ne sais pas si vraiment on va demander quelque chose, mais nous attendons que l'unité vienne. Nous attendons que l'unité vienne, que Dieu fasse son œuvre pour pour faire connaître que l'unité ne se fait pas seulement par la messe, mais surtout par la fesse. Et voilà, donc... ouais, je pense que c'est l'intention de prière. Nous allons prier pour le bonheur de ceux... Je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour ceux que tu m'as donnés, dit Jésus à son Père. Je vais en prier pour le bonheur de ceux qui voudront bien accueillir la vérité, rendre un culte à Dieu, honorer Dieu et croire que l'unité se fait par le moyen de la fesse. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.